Christophe Vogel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié ce mercredi une lettre ouverte sur la situation minière à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous relevez dans cette lettre ?
Bon, dans cette lettre, on parle surtout de l'impact de certaines législations internationales, notamment américaines, et des initiatives pratiques qui sont mises en place ensuite de ces législations. En ce qui concerne l'assainissement du secteur minier artisanal à l'est du Congo et dans la sous-région en général. Et nous relevons principalement certaines questions qui concernent la mise en œuvre de ces initiatives, notamment de traçabilité et de certification. Et nous essayons pas complètement de rejeter ces lois ou ces initiatives, mais de poser quand même certaines questions, comment améliorer la mise en œuvre et comment aussi agir en ce qui concerne à certains impacts quand même négatifs de ces projets de traçabilité et de certification.
Est-ce que la loi américaine Dodd-Frank a-t-il eu un impact positif sur terrain ?
Globalement, la loi Dodd-Frank a eu un impact positif de mettre le thème sur l'agenda. Ça, c'est totalement clair. Sur le terrain, les impacts positifs sont jusqu'à présent presque invisibles, exactement parce que la mise en œuvre des initiatives qui ont suivi la loi Dodd-Frank ont connu quand même certains problèmes qui sont notamment aussi liés au manque de consultation des parties prenantes congolaises. Il y a eu un minimum seulement de consultation du gouvernement congolais, de la société civile congolaise et aussi des opérateurs économiques du pays. Ce qui fait que la loi en soi et les initiatives qui ont suivi la loi ne sont souvent pas vraiment adaptées aux besoins et aux réalités des Congolais.
Quand même, il y a eu un impact du point de vue de l'approvisionnement des groupes armés par le minerai. Comment font alors les groupes armés pour financer leurs activités militaires si ils n'ont plus suffisamment accès aux minerais ?
Comme vous savez, il y a une multitude de différents de groupes armés de différentes qualités et types à l'est du Congo. Il reste quand même toujours entre au moins 50, peut-être 50 différents groupes, dont certains, bien sûr, ont profité des ressources minières pour s'approvisionner en ressources financières aussi. Maintenant, on observe beaucoup de fois que les groupes armés qui sont déprivés d'un revenu du secteur minier ont commencé à trouver des autres alternatives de commerce de substances légales comme le charbon, comme le sel, le sucre, le savon, tout ce que les gens ont besoin, mais aussi d'autres activités illégales comme par exemple le chanvre, ou même aussi l'or, parce qu'au niveau de l'or, il n'existe pas encore de programme de traçabilité. Et même en ce qui concerne les minerais tracés, vu les tendances de monopolisation dans lesquelles j'avais parlé avant, il y a certains acteurs qui continuent à contourner ce système.
Et que préconisez-vous alors pour que les objectifs fixés par la campagne contre les minerais décents soient atteints ?
Je pense que le plus important, c'est au niveau international, les acteurs qui s'impliquent dans ce secteur et qui arrivent avec une bonne volonté de faire quelque chose de positif pour la RDC, doivent s'impliquer davantage de comprendre les contextes et doivent aussi peut-être séparer la problématique des minerais de la problématique générale de conflit. Bien sûr, on a besoin d'une transparence et d'une redevabilité dans le secteur minier qui permet surtout aussi aux acteurs congolais de paisiblement profiter de leurs propres ressources et de se développer. Mais en même temps, il ne faut pas faire la faute d'égaliser le problème des minerais avec le problème de conflit général qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus lié à des questions foncières, des luttes de pouvoir et des tensions régionales.
Monsieur Christophe Vogel, je vous remercie.
Je vous remercie.